Vous y êtes pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante, associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure, je salue Quentin. Salut Quentin.
Bonsoir.
Pour ta chronique géopolitique et Pierre-Antoine, salut.
Salut.
Pour ta chronique politique en fin de sous-marin. Et en fin d'émission, vous retrouverez bien sûr l'agenda de votre soirée et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Marge, espace blanc laissé autour ou simplement d'un seul côté d'un texte manuscrit ou imprimé. La marge, c'est aussi le nom d'un atelier d'édition participatif à Angers. Bonjour la marge, représentée ce soir par Simon.
Bonsoir.
Alors, vous travaillez avec quatre autres personnes. La marche, ça a été lancée, en fait, il y a un an par Flora, qui était partie en Argentine, qui est une ancienne journaliste et étudiante en édition, qui était partie en Argentine rencontrer ce qu'on appelle une cartonera. C'est ça.
C'est ça.
Alors, elle était journaliste et donc il y a 18 mois, elle est allée se perdre en Argentine. Là-bas, elle a découvert ce concept qui est né en pleine crise économique il y a 13 ans, en 2001, en Argentine.
Oui.
En quoi ça consiste ?
Donc, en fait, au départ, en Argentine, pendant la crise, il y avait ce qu'on appelle des cartoneros qui ramassaient, c'était des recycleurs, en fait, qui récupéraient des matériaux de récup un petit peu dans la rue. Et du coup, ils récupéraient notamment du carton qu'ils revendaient aux déchetteries. Donc, ils se trimballent un petit peu partout avec leurs charrioles, etc. Etc. Du coup, il y a dans le même temps une crise au niveau de la littérature et il y a un écrivain qui a décidé qu'il allait racheter les meilleurs cartons aux cartoneros pour en faire des couvertures et créer une maison d'édition un petit peu différente. Ça lui permettait d'un côté de mieux payer les cartoneros, d'un autre côté de proposer des livres à bas prix.
Cet écrivain, c'est Washington Cucurto.
C'est ça.
Qui était avec l'artiste plasticien Javier Barilaro. Ils ont fondé tous les deux, c'est ça, cette
maison. Ils ont fondé la première maison d'édition, Eloisa Cartonera, à Buenos Aires.
Et ça a fonctionné tout de suite ?
Et ça a pris.
Et aujourd'hui, où est-ce que ça en est en Argentine, en tout cas, ce concept de Cartonera ?
Ça vit toujours sous forme de coopérative là-bas. Celle-ci, en tout cas, vit toujours et ça a germé un petit peu partout, dans toute l'Amérique du Sud et dans un petit peu le monde entier.
Et les cartoneros travaillent toujours, il y a toujours des cartoneros dans la rue qui ramassent des cartons.
Toujours des cartoneros.
Qui sont mieux payés cette fois-ci.
Qui sont mieux payés, ceux qui travaillent avec Eloisa. Et qui viennent peindre après leur boulot aussi.
Et donc ça s'est importé en France. Quand d'ailleurs ?
Je sais plus exactement quand. Ça s'est importé par le biais d'un écrivain argentin en fait qui vivait à Paris et qui a lancé le concept, qui a créé la guêpe cartonnière, la première cartonera française.
Puis ça s'est
et puis ça a germé un petit peu sous différentes formes.
Toulouse, Clermont-Ferrand,
qui font plutôt des livres de jeunesse et
Angers. La marge. Il y a un an, la marge a son local rue de Frémur depuis février.
Vous disiez ça
tout à l'heure hors micro. Comment ça fonctionne la marge à Angers ? Alors déjà, il y a pas de cartoneros à Angers. Comment est-ce que vous récupérez les cartons ?
Donc les cartoneros, c'est les bénévoles. Donc on récupère des cartons à la sortie des marchés pour avoir des cartons assez jolis. Sinon, on fait les grandes surfaces où il y a toujours des cartons sur les parkings. On récupère les cartons de meilleure qualité, on les découpe, on les met au bon format et voilà.
C'est quoi un bon carton ?
Un bon carton, c'est un carton pas trop épais, pour pas que ce soit trop brut, on va dire, au niveau du livre. Il faut pas qu'il soit trop fin pour pas que ça se plie non plus au niveau de la couverture. Il faut que ça protège le papier. C'est tout. Après, il y a peut-être la matériau aussi qui joue un petit peu, il faut que ça puisse être peint derrière.
Et vous me disiez tout à l'heure que vous étiez un petit peu sous les cartons en ce moment ?
Sous les cartons. On trouve des cartons, c'est pas. On a beaucoup d'âmes bénévoles qui nous apportent des cartons.
Il y a combien de bénévoles à la marge ?
C'est un peu difficile à dire. On est 5 membres fondateurs au niveau de l'association. Après, on a beaucoup d'amis qui viennent, qui aident. Voilà, c'est un peu large, on sait pas trop.
Bon, alors une fois qu'on a ces cartons, on n'en est pas encore au stade du livre.
Non.
Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la méthode ? Alors moi, j'ai vu ce petit tutoriel qui est très sympa sur le site internet où vous expliquez comment vous faites ces couvertures. Peut-être que vous pouvez décrire au micro le mode d'emploi.
Tout d'abord, il faut avoir préparé les textes. Donc il faut connaître un auteur, avoir les textes. On fait la mise en page, toute la partie un petit peu invisible.
On reviendra du coup sur les textes.
Voilà, on y reviendra. Donc on fait notre mise en page perso pour avoir notre petit style à l'intérieur. On découpe ensuite au format. Nous, on a choisi de faire du A5 ou du A6 pour pas gaspiller de papier. Parce qu'on voulait pas faire de la récup et gaspiller en même temps. Une fois qu'on a nos feuilles, nos papiers, on les glisse à l'intérieur de deux cartons. Le carton de couverture, il a été peint préalablement par toutes les personnes qui passent à l'atelier, avec des thèmes éventuellement, pour que ça reste fidèle un petit peu au contenu du texte. Et ensuite, On sort le marteau, on fait des trous, on sort l'aiguille, le fil, on coud. Et puis c'est fini.
Et on assemble tout ça.
Quasiment.
Qui est-ce qui fait les... Qui est-ce qui peint les couvertures?
À peu près tout le monde.
Il y a des ateliers?
Donc il y a des ateliers tous les samedis après-midi pour peindre ou pour fabriquer. Au niveau de la peinture, même les personnes qui ne savent pas du tout peindre, comme je fais, comme moi par exemple, j'y arrive puisqu'on a aussi des systèmes de pochoirs, etc., qui permettent d'avoir une base ensuite à colorer, et ainsi de suite.
Donc faut pas avoir peur, même quand on sait pas dessiner, on peut se retrouver en train d'être en train pas, de faire une couverture.
On peut se retrouver à se rendre compte qu'on sait dessiner finalement. On a quand même des idées.
Et alors ce que vous mettez dedans, les textes que vous mettez dedans, quels auteurs vous allez piocher? Comment ça se passe la rencontre entre la marge et les auteurs?
Donc nous on a une partie de coédition ou de réédition d'auteurs sud-américains. On a récupéré les textes qu'on a traduits ensuite ou alors qui étaient traduits par le biais du réseau des cartonneras un petit peu du monde entier.
Ça compte combien de cartonneras ce réseau-là?
Je crois qu'on a 200, 300 peut-être.
Dans tout le monde?
Dans tout le monde entier. Il y en a peut-être une centaine en Amérique du Sud. Il faudrait regarder, on a une jolie carte de toutes les cartonneras sur notre site. Donc c'est assez visuel, ça donnera une grande idée. Sinon, à part ces auteurs sud-américains qui sont donc plutôt des rééditions, on a des auteurs locaux ou de Paris qu'on a rencontrés réellement, qui adhèrent au projet, qui soutiennent, on va dire, le projet, qui nous donnent les textes. Au niveau des droits, c'est un petit peu main dans la main, en gros. Nous, on pourrait considérer... Enfin, on les rémunère en nature, quelque part, on leur donne des livres, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça le fonctionnement.
Et en termes de ligne éditoriale, alors comment ça se passe? Est-ce que moi, si j'écris un texte, un joli texte, hein, demain, je peux venir vous le présenter et vous le mettez en page? Comment ça se passe?
Eh bien, il faut nous appeler ou il faut nous envoyer le texte, on va le lire, ça va passer dans notre comité de lecture, donc quelques personnes qui vont le lire, qui vont voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, et puis on rendra une réponse positive, négative, ou alors à retravailler, à voir. Un petit peu comme une maison d'édition classique.
Et ça touche à tous les types d'écriture? Ça peut être nouvelle, poésie, livre pour enfants, BD?
Voilà. Pour le moment, on a fait un petit peu ça. Nouvelle, poésie, livre pour enfants, BD. Après, on est un petit peu limité par le format, puisqu'il faut faire les trous pour pouvoir coudre ensuite. Donc, plus de 150 pages, on a du mal, évidemment.
Et la mise en page, donc tout ça, c'est vous?
Tout ça, c'est nous. Après, c'est le travail.
C'est le travail, c'est du gros travail.
Oui.
On va continuer à parler de la marge dans le sous-marin, juste après Tara King avec l'enquête.
Je cours et je le suis, je cherche.
Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers. On est en compagnie de La Marge, représentée ce soir par Simon dans nos studios. La Marge qui est un atelier d'édition participatif. Et Simon, juste avant d'écouter cette pause musicale, vous nous parliez des auteurs que vous éditiez, parmi lesquels des auteurs latino-américains qui font partie du réseau de Cartoneras. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette littérature argentine que vous éditez?
Oui, donc on a par exemple un conte de Diego Vecchio qui s'appelle Ours et qui est un petit peu comme un conte pour enfants, mais vraiment très très décalé. Ils vécurent pas heureux et ils ont pas beaucoup d'enfants à la fin. Je pourrais le tourner comme ça un petit peu. Donc c'est à la fois un petit peu pour enfants, mais dans le même temps un peu pour ados, et ça fait plaisir aux adultes. C'est vraiment, c'est très cru comme littérature, c'est assez spécial. Celui-là, il reste encore accessible. Après sinon, on a également, que je réfléchisse un petit peu, on a un petit recueil de 4 nouvelles en fait qui sont... Colombie, Argentine, Mexique et je sais plus la quatrième. Et ces 4 petites nouvelles-là, ça s'appelle, ça cartonne, ce bouquin-là. Pareil, un petit peu de la littérature assez décalée, je trouve, un peu crue aussi.
Vous diriez que la littérature d'Amérique du Sud est plutôt crue?
Ouais, c'est ça le mot-clé. Voire trash pour le tout dernier qu'on vient de rééditer, de Washington Cucurto, donc le fondateur de la toute première Cartonera. On vient de rééditer Zella Ryan, qui est plutôt trash.
Et pour les auteurs angevins que vous éditez, les auteurs locaux, est-ce que c'est un moyen pour eux de s'exprimer, ceux qui n'ont pas trouvé de maison d'édition entre guillemets traditionnelle?
Eh bien, au niveau des auteurs locaux, on en a par exemple un, il s'appelle Le Cavalier Rouge de Francis Crumble, qui lui tient une maison d'édition autour de Béhuard en fait. Il fait de la poésie et il a une maison d'édition qui s'appelle Trôme Fabrique. Donc il est édité, il peut s'éditer, mais il a décidé de nous donner un texte pour que nous on l'édite un petit peu différent que de ce qu'il fait d'habitude, un conte. Également, revu et corrigé à sa sauce, donc un peu plus militant, un peu plus engagé, on va dire.
C'est la littérature militante à la marge?
Pas forcément, c'est de la littérature.
Est-ce que c'est un moyen aussi de faire un petit pied de nez au secteur de l'édition qui connaît, elle aussi, la crise, hein, avec par exemple son chiffre d'affaires qui a baissé de 1,7% en 2012, qui, voilà, le secteur est aussi en crise. Est-ce que vous, c'est un moyen de dire ça fonctionne si on s'y prend autrement?
Je sais pas si je dirais, c'est pas vraiment un pied de nez pour moi, mais c'est surtout une façon de montrer que si on a envie de faire quelque chose, on peut le faire. Il y a d'autres réseaux possibles, il y a d'autres façons de travailler, on est un petit peu dans le do-it-yourself là-dedans également. Donc si on a envie de faire, on fait. Clairement, on s'y met et on se rend compte qu'on peut publier, qu'on peut éditer, qu'on peut avoir un certain succès. Voilà. Il n'y a pas besoin de rester dans les clous, d'espérer que la maison d'édition nous prenne.
Et pour les gens qui aimeraient justement se procurer ces livres, ils sont en vente à 5 euros, ça c'est un prix unique.
C'est un prix unique, oui.
Pour quelle raison?
On voulait à tout prix avoir un livre qui reste absolument accessible à tous, donc on voulait pas gonfler le tarif. Après, c'est par commodité aussi, c'est plus facile de donner un billet de 5 euros, ça nous fait moins de monnaie. Et puis les matériaux aussi, la peinture, etc., c'est évidemment inclus dans le prix. Donc voilà, prix unique pour objet unique, vu que c'est à chaque fois un objet unique avec une nouvelle couverture, etc.
Et c'est un tarif qui est reversé ensuite aux auteurs ou à l'association?
Ce tarif-là, il aide à financer les livres suivants. Ça nous permet de racheter du papier, de racheter de l'encre.
Et de retrouver du temps pour avoir des cartons.
Éventuellement aussi.
Alors, c'est pas qu'une maison, un atelier d'édition participative, La Marge, c'est aussi... Donc, on peut y venir pour des ateliers le samedi après-midi. Donc, on a bien compris qu'on n'était pas obligé de savoir dessiner.
C'est ça, tous les samedis après-midi, on n'a pas besoin d'être adhérent, c'est gratuit, on peut venir nous aider, voir ce qui se passe, voir comment on fait, ou mettre la main à la pâte, peindre, fabriquer, etc.
C'est aussi un lieu d'exposition. Et il y a une exposition qui vient de s'ouvrir, qui est là jusqu'au 19 juillet, c'est l'expo des Corrigans de Léon Layon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, nous la présenter?
Donc, Léon Layon, en fait, c'est un écrivain également, qui vient de sortir un livre au petit pavé, donc je fais sa petite pub. Donc, il a sorti Viva Libertad. Et du coup, il fait également des petites sculptures en bois flotté ou en matériaux de récupération. En fait, il fait les plages, il récupère des eaux, il récupère du bois, il récupère des bouteilles et il fait des petits personnages avec ça. Donc les Corrigans, c'est des petits lutins, on va dire, bretons, qui surveillent les cultures ou des choses comme ça au départ. Donc là, ceux qu'on expose, c'est des Corrigans qui sont uniquement faits à base d'eau, des eaux de poissons ou des eaux d'animaux, d'oiseaux, etc. Et il y a à chaque fois la petite histoire, le petit personnage qui est présenté à côté.
Et dans l'actualité de La Marge, il y a aussi ce concours de nouvelles dont vous avez trouvé le thème, Simon. Le bourreau devait être un artiste.
Non, le thème n'est pas de moi, on l'a voté à 5.
Vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de ce thème, de cette thématique?
Ce thème-là, non. Donc, quand on s'est dit on sort un concours de nouvelles, après c'est qui a une idée, on donne des idées, puis on choisit celle qui nous plaît le plus.
Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour y participer?
Pour y participer, il faut nous écrire une petite nouvelle. On n'a pas mis de limite de page. On nous envoie un texte, ça peut faire une page, deux pages, peu importe, on nous l'envoie. Nous, on va le regarder. Après, on publiera les 5 meilleurs et les 5 meilleurs donc seront publiés et les auteurs auront droit à leurs exemplaires.
Et pour finir sur les activités de la marche, qui est vraiment un lieu qui se veut en fait un lieu de vie avant tout presque, parce que vous êtes aussi un lieu où on peut venir pour proposer des réunions, des événements. Vous voulez être un peu acteur de la vie angevine.
C'est ça, on aimerait bien en fait... C'est pas si facile de trouver un local avec pignon sur rue, ouverture au public, etc. Donc on veut que tous ceux qui ont envie de faire quelque chose viennent le faire chez nous éventuellement, avec nous si possible aussi, bien entendu. Voilà, donc...
Donc ça se passe rue de Frémur à Angers.
Rue de Frémur.
Et si on veut des infos, c'est direction le site internet lamarge.jimdo.com. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Puis donc toutes les infos sont sur le site internet de La Marge. Nous, dans le sous-marin, on va écouter Cineplex avec Effecto Visual. Sous-marin sur Radio Campus Angers. Après avoir parlé de La Marge, on retrouve Quentin qui nous permet de jeter un œil hors du sous-marin et de regarder ce qui se trame à l'étranger. Nous en parlions hier, ici même dans les studios du sous-marin, les élections européennes de dimanche, et Quentin ne peut pas s'empêcher d'en remettre une couche sous forme d'édito.
C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le 25 mai, c'est vos élections européennes. Vous aimez la façon dont l'Union européenne est gérée? Dites-le. Vous voudriez que l'Union européenne ait de nouvelles orientations? Dites-le. Vous n'aimez pas l'Union européenne? Dites-le aussi. Et si vous souhaitez voir plus d'écologie, plus de régulation, plus de liberté, plus d'égalité, dimanche, vous avez le choix. Beaucoup, beaucoup de listes sont candidates et reflètent, du coup, de nombreuses opinions. L'Union européenne représente une formidable cohésion, une coopération inédite entre les États. Tout n'est pas rose aujourd'hui, mais elle a permis à ses membres un développement économique nettement accru dans les années 60. L'UE est aussi un gage de stabilité et de paix. Depuis novembre, dans mes chroniques, je vous parle de pays politiquement instables, de guerre. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, les tensions couvent et les conflits éclatent. L'Europe n'échappe pas à tous ces troubles miraculeusement, mais bien parce qu'elle est unie sous un même drapeau. L'Europe a aussi un gros potentiel d'émulation. Elle n'est pas que la source de normes et de lois contraignantes. C'est une organisation capable de s'opposer aux banques, contrairement aux États moins influents quand ils sont isolés. C'est une organisation qui peut représenter des peuples unis. Elle est et sera le centre de grands projets internationaux.
Et puis l'Europe évolue.
Oui, réjouissez-vous, tu en parlais hier, Tiffaine, le mode de gouvernance de l'Union européenne pourrait bien évoluer vers plus de démocratie. Votre vote comptera peut-être plus que jamais. Le président de la Commission européenne, si les chefs d'État des 28 pays respectent le choix des urnes, sera celui de la majorité élue. Participons à cette évolution de l'UE. Le système est jeune, imparfait, oui, mais il ne demande qu'à devenir plus mature, justement, dans la lignée du renforcement progressif depuis sa création de ses prérogatives. L'Europe prend plus d'importance, élargit son rôle dans ses pays membres, et elle s'élargit aussi géographiquement. La Croatie nous a rejoint l'été dernier.
Le dernier élargissement en date.
Tout à fait. Et à chaque nouvelle entrée d'un pays dans l'Union européenne, on parle d'élargissement. Je sais pas vous, mais personnellement, je trouve pas ça super positif comme terme. Élargissement, on dirait qu'on fait la place coûte que coûte dans une Europe qui est déjà pleine à craquer, où il y a trop de charges qui nous incombent. On dirait qu'on déforme un habit trop petit pour pouvoir y rentrer à plusieurs, pour se réchauffer les uns contre les autres. Bah oui, réchauffons-nous les uns contre les autres. Partageons cet habit trop petit. Parlons aussi d'agrandissement. L'Europe devient plus grande. Elle se grandit politiquement en intégrant un nouveau pays. Elle s'enrichit de nouvelles cultures, de nouvelles idées, de nouvelles âmes qui ont une histoire profondément mêlée à la nôtre. Quoi qu'il en soit, adoptez le terme qu'il vous plaît, élargissement ou agrandissement, mais demandez-vous si vous acceptez ou non, avec enthousiasme ou pas, l'idée de cette grande Europe commune et participez-y. Cette unité de l'Europe est intangible pour nous dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est difficile à appréhender. Elle est invisible dans les médias. Mais l'existence d'une union continentale est là pour nous faire vivre et toucher du doigt cette unité. Au-delà des débats remplis de termes, de notions savantes, considérez-la, cette union qui nous rassemble, qui nous appelle, comme quelque chose qui a besoin de notre volonté pour que chacun puisse l'aider à avancer et à poursuivre sa dynamique. Si vous appréhendez ce motif, aucune raison ne peut plus vous freiner pour intégrer l'Union européenne parmi vos préoccupations. Faites en sorte d'obtenir les informations qu'il vous manque, imprégnez-vous des avis d'autrui, vos proches, les médias, les philosophes, les économistes, si vous avez du courage, et réfléchissez sur tous ces avis avec vos moyens. Esquissez une opinion, renforcez-la, doutez, faites-la progresser, et ne gardez pas cette opinion pour vous.
C'était la tribune euro-antiseptique de Quentin. Merci Quentin. 2014, c'est donc l'année des élections municipales et européennes. C'est le centenaire de la naissance de Marguerite Duras et de la Première Guerre mondiale. C'est 16 ans après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde et c'est aussi les 10 ans du label indépendant marseillais Chinese Man Records. Pour l'occasion, comme on est comme ça dans le sous-marin, hop, on a téléphoné à Fred, le manager du label. Bonjour Fred.
Bonjour.
Et joyeux anniversaire à Chinese Man Records. Ça fait 10 ans.
Merci. Ça fait 10 ans, 2004-2014.
Alors, à l'origine, c'est qui le Chinese Man?
Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Il est au-dessus. On le croise rarement et il donne ses ordres à ses disciples. Mais non, il n'y a pas vraiment. C'est cette longue aventure de non-personnification. Personne n'a jamais trop voulu se mettre en avant et le groupe non plus. Et du coup, il y a cette mythologie du Chinese Man, de l'homme chinois caché qui envoie ses disciples répandre l'esprit zen aux quatre coins du globe, qui s'est créé au fur et à mesure. Mais voilà, ça nous arrange bien parfois de se cacher derrière un être suprême.
Alors justement, vous en parliez tout de suite, quand on dit Chinese Man, on pense au groupe. C'est aussi un label. Qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier? Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit retour en arrière?
Ouais, en fait, c'est vraiment c'est la poule ou l'œuf, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le label, enfin, c'est le collectif, puisqu'au début, c'est comme ça qu'on nommait le truc. C'est les trois Chinese Man, les trois membres du groupe Chinese Man qui sont à l'initiative de la création du collectif. En allant avec tous nos potes autour de nous, qu'ils soient dans la vidéo, dans le graphisme, dans l'animation, et de se dire, on fait une machine à projet, et puis on sortira ce qui en sortira. Et eux, du coup, se sont prêtés au jeu en faisant leur propre propre prod musicale qui est devenu à terme le groupe Chinese Man. Donc le groupe a pris le pas pendant un certain temps parce que ça a marché entre guillemets quoi, et du coup la notoriété se faisait autour du groupe, et depuis maintenant 3-4 ans le label, avec l'arrivée de Deluxe, de nouveaux groupes et tout, a une vraie vie et maintenant les deux sont assez connus.
Voilà, alors, Chinese Man, Deluxe, il y a aussi Taïwan entre autres hein, bien sûr. Comment vous définiriez la touche Chinese Man Records, la patte?
Ben alors musicalement c'est super varié. Enfin, il y a une base commune en fait qui est hip-hop et plus largement black music. Il y a toujours cette même culture musicale chez tous les artistes. Après par contre ça a pris des chemins super différents. Chinese Man, ben, on connaît. C'est assez varié aussi parce que du coup c'est de la musique samplée, donc du coup parfois c'est avec des origines africaines, parfois indiennes, parfois asiatiques, donc c'est super varié, mais il y a toujours cette base hip-hop avec basse batterie et chez Deluxe pareil, avec un côté beaucoup plus funk. Chez Taïwan, un côté plus ragga. Voilà, ça prend des chemins différents, mais il y a une base commune qui est le hip-hop, pour faire très large, et la black music.
Alors, Chinese Man Records, c'est un label indépendant. C'est quoi la différence, les différences entre un label indépendant et une major en termes de création artistique? Est-ce qu'il y a des règles ou est-ce que justement il n'y en a pas en termes de suivi des artistes, de promo? Je ne sais pas à quoi on peut penser d'autre, mais c'est quoi la différence?
Ouais. Bah, la grande différence, je pense, pour nous, au niveau de la structure, c'est que indépendance, ça veut dire liberté, en gros. On a personne qui prend des décisions, alors que je parle au niveau de la structure, mais pour les artistes, c'est pareil. On essaie de les intégrer énormément dans les processus de décision pour que, à la fin, si tu veux, leur projet musical, il corresponde vraiment à ce qu'ils avaient envie de faire. Mais ça veut dire sur la musique, où toute la liberté est laissée à chacun. Après, évidemment, il y a des avis consultatifs, tout le monde n'aime pas tout, ça se dit, on en discute, enfin voilà, mais c'est super libre, et c'est pareil en fait, sur la promo, sur les pochettes d'albums. Pour reprendre l'exemple de Deluxe, sur leur album, c'est eux-mêmes qui ont fait leur pochette, parce que on a testé 2-3 trucs avec des graphistes, et puis ils avaient une idée assez précise, et au final, on a finalisé le truc avec eux aux machines, quoi, qui ont fait leurs photos, leurs graphismes, et donc ça fait vraiment partie de la façon dont on fonctionne, où les artistes sont complètement intégrés dans le processus de création, et pas du tout séparés de la structure label qui les accompagne, mais qui leur donne pas les directives pour c'est comme ça qu'il faut faire.
Ça, ce serait pas le cas dans une major, par exemple.
Je pense que maintenant, ça commence à changer. Pendant longtemps, ça a été des cadres beaucoup plus formatés. Maintenant, tout le monde, on révolutionne pas non plus la façon de faire. Donc, les gens ont compris qu'il y avait besoin de laisser cette liberté aux artistes. Enfin, je pense, j'espère pour eux. Mais après, la grande différence, après, elle se fait plus sur le fond du truc, c'est-à-dire que on est indépendant, ça veut dire aussi être indépendant financièrement. Donc, il y a personne, on autoproduit tout. Donc, en faisant ça, on se laisse une totale liberté puisqu'il n'y a personne d'autre qui met de l'argent. Donc, personne n'a son mot à dire. Et jusqu'au bout, on fait comme on a envie de le faire, en fait. Et dans des structures plus grosses, évidemment, les choix sont parfois plus liés à du financier. Il faut que le projet y marche. Et on a une vision qui est assez différente dans notre façon de faire. Évidemment, on préfère que ça marche, mais... Mais si tu veux, c'est pas ça qui régit la décision, quoi. Elle se fait à l'envie de faire un projet, et puis après, on espère évidemment que ça rencontre son public, mais c'est pas la base de décision.
Et c'est quoi, par contre, les difficultés que vous pouvez rencontrer, justement, en termes d'argent, peut-être, en termes de financement ?
Ouais, bah forcément, on n'a pas les mêmes épaules, donc on a un nombre de groupes beaucoup moins important aussi, donc les risques ils sont plus importants, parce que si t'as un album qui marche pas du tout, une tournée qui décolle pas, bah évidemment ça va être difficile de faire la suite. Donc oui, il y a des problèmes d'argent qu'on règle avec beaucoup de travail, beaucoup d'envie, et c'est toujours pareil. C'est pour ça aussi que les artistes participent, c'est que pour faire avancer le projet, il faut forcément de l'argent à un moment, mais il faut surtout beaucoup de volonté et de temps passé. Et pour faire simple, le prochain clip de Deluxe, c'est eux qui sont en train de le tourner. Alors c'est pareil, ils le font pas parce qu'on n'a pas trouvé de financement, hein, c'est qu'ils ont envie de le faire. Mais si tu veux, il y a tout ce travail et cette recherche de trouver des solutions alternatives pour essayer de faire aussi bien. Enfin, en tout cas, ne pas se limiter à cause de l'argent, mais voilà, mais évidemment, c'est un souci. Après, c'est un souci, c'est un truc à prendre en compte, en tout cas. Après, on arrive à faire notamment cette tournée qui est une tournée qu'on produit entièrement, une tournée dans des salles type Zénith. On a un fonctionnement qui marche quand même, mais évidemment, on n'a pas les mêmes libertés financières, je pense, que des structures beaucoup plus importantes. Ouais.
Alors justement, cette tournée pour fêter les 10 ans, le joyeux anniversaire du label, c'est dans toute la France et c'est à Nantes vendredi avec sur scène Deluxe, Taïwan et Chinese Man. Il faut s'attendre à quoi sur scène ? Est-ce qu'il y aura des petites surprises ?
Il y aura des petites surprises parce que tu n'as pas dit tout le monde. Donc il y a Youstar, qui est un autre MC qui vient de la scène drum and bass principalement et qui tourne avec Chinese Man de temps en temps, enfin sur les dernières années. Et là, il est présent sur toute cette tournée, donc aux côtés de Taïwan, mais il intervient aussi sur le show de Deluxe. Et il y a aussi ASM, State of Mind, qui sera là sur la date de Nantes. Et donc, en gros, si tu veux, c'est un show de Deluxe, le nouveau show de Chinese Man qu'on découvre sur cette tournée. Et à la fin, en fait, la réunion de tous les artistes sur une création unique, parce qu'elle n'existera que pendant ce mois de tournée. Où tout le monde, où t'as Chinese Man qui retrouve Deluxe avec Taïwan, avec Houston, avec ASM, tout ce beau monde sur scène pour faire la fête. C'est un gros final explosif, donc à ne pas rater, parce que ça envoie pas mal pour l'avoir vu déjà sur les premières dates. Ça fonctionne super bien, le public est à fond, il y a une super ambiance, donc c'est bien cool. Ouais.
C'est un super anniversaire.
C'est ça, c'était l'idée, hein. C'était pour l'anniversaire, au lieu que chacun le fête dans son coin, qu'on crée ce plateau un peu spécial. Alors on peut pas le faire pendant un an, donc on le fait que sur un mois. Mais tous les artistes se retrouvent sur scène, tous les artistes du label se retrouvent réunis en même temps. Donc c'est aussi une histoire, c'est sur la route pendant un mois tous ensemble, avec des rencontres, des futurs projets qui se créent aussi, enfin... Donc c'est super cool, c'est une bonne façon de le fêter et on avait envie de réunir tout le monde pour à l'occasion de ces 10 ans. Ouais.
Et c'est donc à Nantes vendredi. Merci beaucoup Fred d'avoir répondu à nos questions.
Il n'y a pas de souci, avec plaisir.
C'est la semaine On est sympa sur Radio Campus Angers, et donc comme son nom l'indique, on est sympa et on vous offre 3x2 places pour le concert anniversaire de Chinese Man Records vendredi soir au Zénith de Nantes. C'est quasi complet, nous sommes donc votre dernière chance d'y aller. Allez, soyez pas timide, c'est très facile. Pour cela, dites-nous comment on dit l'homme chinois en anglais. Je répète, l'homme chinois. Envoyez votre réponse avec vos coordonnées à l'adresse mail suivante, communication@radiocampusangers.com. Et là, pour vous faire plaisir, on va écouter Chinese Man, feat. XI Skater, There They Go. I never dropped the ball, don't get it twisted, bitch, I did the opposite. Took some time to get my cheese correct and do my proper thing. Hopped up out the loop and had to work some fucking awful shit so I could eat my pizza with all toppings and the condiments. See, I deserve my slice of all the elements for stepping back from all the mess when the game became ominous. While y'all embraced the grimy darkness, I was chasing opulence, trying to get my wallet fit while high notes on some opera shit. It's common sense, kids, let me summarize. Wake, work, make moves, never mind the other guys. Stack chips, buy a grip, cop a whip, something fly. Hustling for yourself, the shit, don't try to tell me otherwise. You tend to see the downside of the beers, though, when you take a steady look from outside of the fishbowl. People that you thought were real, a downright fucking bitch, though. It's 50 on a sock of chin, though, like a Klitschko. So I ate another drop in a bucket, or another food scrap on a rug. You ain't gonna get rid of me that easy. Sit and watch them all scatter like bugs. There they go, there they go. There they go, there they go, there they go. There they go, there they go. There they go, there they go, there they go.
I never heard of seven toes.
It's XI.
Promettez-moi de ne pas vous mettre en colère.
See, while the scene was getting flooded like a fucking Bible stream, I was on my 9-to-5, steady, busy, grinding mean. Learning ways to earn a wage, pursuing pay and finding green. And once I earn my stacks, I burn, relax, and take some time to sleep. Why you think I'm sitting around trifling? That's fine to me. Cause I'm no vegetable, I just take time to feed my lima bean. Moving at a steady pace, ace, I have the right to be. Cause when you in slow motion, even 50 feel like hyperspeed. So I'ma push the gas and kinda slow, won't see me crashing. Steady smashing down the app just like a pro. Completely macking, acting like they have it lavish, they don't know. That's why I'm blasting through the average. So acting like a hoe, there they go. Always flashing all their headlights, thinking that they just might rush and get their bread right. Floating around like broken clowns, acting all big head tight. But most of them never touch the fucking cumulus lead kite. So I ain't another drop in a bucket, or another food scrap on the rug. You ain't gonna get rid of me that easy. Sit and watch them all scatter like bugs. There they go, there they go. There they go, there they go, there they go. There they go, there they go.
Ne faites pas nécessaire, croyez-le.
So I ain't another drop in a bucket, or another food scrap on the rug. You ain't gonna get rid of me that easy. Sit and watch them all scatter like bugs. There they go, there they go. There they go, there they go, there they go. There they go, there they go. There they go, there they go, there they go.
On est mardi et dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, on retrouve Pierre-Antoine pour son ultime chronique politique de la saison, émotion. Dimanche, en fin de soirée, Jérôme Kerviel a été interpellé à Menton, dans les Alpes-Maritimes, près de la frontière italienne. L'ex-trader est accusé d'avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros en 2008 à son employeur de l'époque, la Société Générale. Mais est-il vraiment le plus coupable ?
Jérôme Kerviel passera ce soir sa troisième nuit consécutive en prison. Interpellé dimanche, l'ex-trader s'est rendu de lui-même à la police sans faire de résistance. Éclairé par la lumière divine lors d'une rencontre avec le pape en février dernier, il avait entrepris le 5 mars une marche entre Rome et la France où il devait être incarcéré. L'ex-trader a en effet été reconnu coupable 3 fois par la justice française, en 2010, puis en 2012 et enfin en 2014, lorsque la cour lui a refusé son pourvoi en cassation, coupable d'avoir fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale qu'il accuse d'avoir dissimuler ses positions grâce à un montage élaboré de transactions fictives. 5 milliards d'euros, pour ceux qui auraient un peu de mal à se l'imaginer, on les comprend, c'est environ 1/6 de la fortune de Liliane Bettencourt, 500 000 Clio dernière génération ou encore 5 milliards de baguettes. Ça fait quand même un sacré paquet de sandwich.
Mais cette condamnation est-elle juste ?
Sur le papier, pas grand chose à dire. Jérôme Kerviel a effectivement fait perdre énormément d'argent à son employeur qui assure ne pas avoir été au courant de ces transactions, chose que conteste fermement Kerviel, pour qui la Société Générale connaissait la nature des fonds engagés qui s'élèveraient à près de 50 milliards d'euros. Autre défense du trader, en 2007, il a fait gagner à sa banque 1,7 milliard d'euros. Impossible alors pour ses supérieurs de ne pas savoir. Kerviel peut tout de même compter sur un certain nombre de soutiens, même à la gauche de la gauche, entre l'ancien trader qui dit avoir honte de son ancien métier aujourd'hui, a trouvé un appui dans la personne d'Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de Gauche, qui a même fait un petit bout de chemin avec lui. Autre soutien de taille, celui de Jean-Luc Mélenchon, le leader du Front de Gauche, a déclaré dimanche que Kerviel avait réalisé le mal qu'il avait fait. Dreyfus n'était pas des nôtres et on l'a soutenu. Kerviel est innocent, donc on le soutient. Il n'est pas de notre milieu. Il était un traîneur aveuglé, a-t-il ajouté. Soutien encore plus étonnant, celui de l'Église catholique, Monseigneur Di Falco, évêque du Gard, ou encore le père Gourier, curé à Poitiers, sont de la partie. Ce dernier terminera la marche jusqu'à Paris seul, avec en poche cette citation du pape François. Non à la dictature de l'économie sans visage et sans but véritablement humain. Il intervenait dimanche sur France Info.
Oui, je suis prêtre. Mais un prêtre ne reste pas dans la sacristie. Un prêtre est impliqué dans la société. Et il ne vous a pas échappé que le pape François, il pousse l'Église à bouger. Moi, si je suis ici, c'est à cause du pape. Le pape nous dit, soyez pas des statues de musée. Le pape nous dit, dénoncez l'injustice. Le pape nous dit, ayez désir de changer le monde. Ben voilà, ben, Jérôme, il veut tout ça et nous avec lui.
Mais les soutiens ne suffiront peut-être pas pour éviter la casse prison. Kerviel a été conduit hier matin devant le procureur de la République de Nice et a été incarcéré. Une peine de 5 ans, donc 2 avec sursis, qui pourrait être allégée. Samedi dernier, l'ancien trader a interpellé le président de la République, réclamant l'immunité pour de possibles témoins en sa faveur. Il demandait également à rencontrer François Hollande pour lui exposer tous les dysfonctionnements graves lors de son procès. L'Élysée a de son côté répondu, pour une fois encore, à côté de la plaque. Si Jérôme Kerviel demandait la grâce présidentielle, sa demande serait examinée selon la procédure habituelle, c'est-à-dire après une instruction et un avis de la chancellerie. Si Kerviel ne trouve pas de soutien à la présidence, il se heurte à d'autres opposants, comme Michel Sapin. Le ministre des Finances accuse l'ancien trader d'être un escroc. Monsieur Kerviel est un délinquant, et un délinquant condamné par la justice française pénalement, c'est un escroc qui doit bien entendu purger sa peine. Pas sûr qu'il trouve un soutien sans faille non plus du côté de l'UMP. Xavier Bertrand préfère tacler sur la radio de la communauté juive le président Hollande. On a maintenant un citoyen qui se permet d'interpeller le président de la République directement, personnellement. Le responsable de cette situation, c'est justement le président de la République.
Et un autre adversaire de taille au sein de la justice.
Oui, Philippe Bilger, un ancien magistrat qui se fait le fer de lance de la fronde anti-Kerviel. Pour lui, l'ex-trader est un coupable qui a été condamné, qui doit exécuter sa peine, mais qui tente de se présenter aujourd'hui comme une sorte de justicier politique contre la finance. Il était joint au téléphone par France Info.
On a une sorte de folie des grandeurs de la part de Kerviel et de ceux qui l'entourent, une mystification politique et je dirais le grand risque, c'est une manipulation médiatique.
Alors Jérôme Kerviel, coupable ou non coupable ?
Plus que le jugement d'un homme et d'une défaite au monopoly grandeur nature, attendre la mise en cause d'un système économique où la spéculation à outrance est légitimée et où les individus ne sont plus que des chiffres avec lesquels on joue. Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance, avait clamé un certain François Hollande le 22 janvier 2012 au Bourget. Dommage que le bouc émissaire du monde de la finance soit aujourd'hui un certain Jérôme Kerviel.
Merci Pierre-Antoine, notre cher chroniqueur politique de cette saison, et puis joyeux été. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de cette soirée angevine, avant-première de 2 jours, 1 nuit des Frères d'Ardennes aux 400 coups à 20h15, à 20h30 à l'espace culturel de l'université, concert de Armand, Glam et Krinkx, c'est très dur à prononcer, et Bœuf Blues au T-Rock à 21h. Demain, scène ouverte à 19h à l'espace culturel, à 19h30, la chorégraphe Ambre Senatore présente Passo au quai. Au Shabada, à 20h45, c'est On Stage, spécial conservatoire avec Burn School, entre autres. À 21h, scène ouverte acoustique au T-Rock. Roméo Terrestre est au Jacaré à 22h. Et à 21h, ce soir, sur notre antenne, qu'est-ce que vous faites? Vous retrouvez cette Johnny Clash Show. Salut, Johnny Clash.
Hey.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir à 21h?
Alors ce soir, Tiffen, tu sais que c'est la fin de saison la semaine prochaine.
Oui, je ne suis pas sans le savoir, effectivement.
J'ai rendez-vous avec le boss de la radio ce soir pour essayer de le convaincre de nous renouveler pour l'année prochaine.
C'est pas gagné.
C'est pas gagné.
Bon, alors ça c'est à 21h sur le 103 FM de Johnny Clash Show. Tout de suite, on vous laisse avec la bulle sonore. Hier soir, Papyrus, l'émission littéraire de Radio Campus Angers, a repris du service pour vous parler des bouquins de plage. Ici, Valentin vous explique ce que c'est et Théo vous livre le sien. La totalité du programme est bien sûr à retrouver sur le www.radiocampusangers.com. Passez donc une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve jeudi à 19h. Allez, bisous.
Donc le dossier du jour est consacré aux bouquins de plage. Donc ça peut sembler un peu pété comme thème, et ça a même d'ailleurs posé pas mal de problèmes de compréhension au sein de l'équipe.
Ça l'est un petit peu d'ailleurs.
Et bah tu feras le thème de la prochaine émission si t'es pas content. Donc les bouquins de plage, en fait, pour faire court, ce sont ces livres que vous emmenez avec vous l'été quand vous êtes en vacances, pas forcément à la plage d'ailleurs, et quand vous avez un moment de libre, vous vous plongez dedans, dans un bon roman, mais c'est ces moments où vous n'avez pas forcément envie de vous concentrer en lisant du Hegel ou du Foucault. Donc il n'y a rien de péjoratif hein, quand je parle de bouquin de plage, c'est avant tout un livre qui est là pour vous détendre et surtout pas pour vous filer un coup de déprime. On aurait pu faire une liste des livres parfaits pour le sable chaud, mais on a décidé plutôt de sélectionner un livre, un seul, qui nous a marqué et qui nous rappelle les souvenirs des beaux jours. Donc avant de débuter ce dossier, on va peut-être rappeler les livres que vous voulez vous présenter avec les chroniqueurs. Marin, tu vas nous parler de quoi comme livre ?
Je vais vous parler de Pulp de Bukowski, célèbre auteur américain.
Pour ma part, je vais vous parler du Vieil Homme et de la Mer d'Hemingway. Et Théo va commencer directement avec Douglas Kennedy.
L'homme qui voulait vivre sa vie.
Et en quoi ce livre-là, c'est un bouquin de plage pour toi, Théo ?
Eh ben, c'est ça fait un peu scénario de blockbuster américain. Un livre assez efficace, genre qui te prend au trip assez rapidement et tu évolues avec le personnage, tu vis ses doutes, ses appréhensions, sa lente transformation.
Un livre un peu épique ou
pas vraiment épique, mais c'est le genre de livre où t'as pas vraiment besoin de réfléchir et t'as juste à te laisser entraîner par l'histoire.
Un vrai bouquin de plage.
Un vrai bouquin de plage, ouais. Donc je vous fais le topo. Brent Bradford a réussi, la trentaine, avocat compétent, un beau poste dans l'un des plus grands cabinets de Wall Street, une femme et deux fils tout droit sortis d'un catalogue Gap. Sauf que Ben déteste sa vie. Il a toujours rêvé d'être photographe. Sa femme est froide avec lui, et il se rend compte que cette froideur est moins liée à la dépression post-natale qu'à une aventure extra-conjugale. Comble de l'ironie, l'amant de sa femme, Beth, est lui-même photographe. Et il est mauvais de surcroît. Anéanti, Ben va supprimer son rival dans un moment de folie, puis maquiller la scène et recommencer une nouvelle vie à l'autre bout des États-Unis. En prenant bien sûr le nom de la victime, ce ne serait pas drôle sinon.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.